Combien on est ce soir? On est deux?
5, vous êtes.
Ah, je vois les deux sœurs ici affichées.
Il n'y a pas que.
Hein?
Sociable des sœurs.
Il y a Chantal, Linda,
Shoshana.
Shoshana, Rebecca, et il y a Daniel qui va arriver. Ils
David.
étaient en. Oui, on va voir. Je vais les rappeler là.
Et où est David pour sauver l'honneur des hommes?
David, il a une
Ah.
organisation d'un chiot par une association. Enfin,
Top. Donc c'est un cours pour femmes, quoi. C'est très bien.
Je vais venir s'enregistrer. Voilà, allez, Yana.
On y va. Top. On continue Melachot Shabbat. D'accord? On a fini Melachet Melaben. Avec toutes les interruptions qu'il y a eu. On a quand même fini la semaine dernière. Maintenant, on continue. Qu'est-ce qu'on fait après avoir lavé de la laine? On la bat, très bien. Il y a une mélacha qu'on ne va pas trop étudier. En fait, elle n'a pas été traitée du tout dans les Sfarim. Mais on fait quand même. Puisqu'on fait tous les 39 travaux. Il n'y a pas beaucoup à parler. Techniquement, on la rencontre très rarement pendant Shabbat. C'est cette étape. Parce que avec la laine, pourquoi on fait de la laine? Dans la Mishkan, on a besoin de tisser. D'accord? Mais avant de tisser, il faut des fils. Et sur le mouton, il n'y a pas des fils. Il y a de la laine. Tout étoffé comme ça, tout en pelote. Donc il faut fabriquer les fils. Comment on fait ça? On prend la laine, une fois qu'elle a bien été lavée, bien propre, bien neuve. On tape fort dessus, je ne sais pas ce qu'on fait exactement, j'ai jamais travaillé là-dedans. Ou on la peigne, ou on frappe. En hébreu, ça s'appelle menapetz. Menapetz, il y a le mot. Napats dedans, c'est un pitsouts. On la tape dessus, on la tape comme il faut. Mais quel est le but? Le but, c'est en frappant fort, il y a les fils qui vont se séparer et se former. Parce que la laine, à l'état naturel, c'est beaucoup, beaucoup de fils qui sont ensemble, qui sont réunis. On voit pas les fils. Il faut bien, bien taper dessus, faire, je sais pas ce qu'il faut faire, en tout cas, bien donner un bon coup sur cette laine. Et. Voilà, mais c'est démêlé pas à la main, quoi. C'est pas quelque chose qui s'est emmêlé. C'est des fils qui s'en mêlent et j'ai des mêles, ça c'est autre chose. Là, il faut les fabriquer, c'est-à-dire le coup qu'on va donner sur la laine, ça va se séparer en fils. Et donc la laine va commencer à s'effiler. Et grâce à ça, on va pouvoir tisser. On ne va pas passer de l'étape de la laine du mouton. Même si elle est nickel, elle est propre, ça c'est propre, c'est une autre histoire. Mais une fois que laine de mouton, on ne peut pas tisser avec ça. Donc comme on a dit, ces 39, c'est des étapes qui sont indépendantes l'une des autres, ils sont obligatoires. Je ne peux pas passer à une étape si je ne fais pas l'autre étape. C'est ça qui fait ça, c'est ça qui définit que ce soit une mélacha, un acte khachouf. Donc une fois qu'on a, donc c'est maintenant on dit que c'est en plusieurs groupes. Il y a le grand premier groupe qui passe depuis semer, labourer, cueillir, trier, cuire. Tout ce premier groupe, maintenant on est dans le deuxième groupe des Mélachot. On sépare ça en plusieurs groupes. Dans le deuxième groupe, il y a d'abord obtenir la laine. Donc comment on obtient la laine? On tond. Deuxième chose, on a la laver. D'accord? Il y a tondre et laver. Donc ça, on a étudié toutes les Halachot. Toutes les Halachot qui sont Shayach à déconnecter. Définition de tondre. Déconnecter quelque chose de sa source naturelle. Et donc on a vu les cheveux, les ongles, les fourrures, tous les cas d'Alakhalema assez pratiques qui rentrent dans Gozès. Et ensuite, on a parlé de Melechet Melaben, c'est-à-dire d'améliorer la laine. Donc là, on est rentré dans tout ce qui est laver des habits. Tous les interdits de la Torah, tous les interdits des Chachamim qui tournent autour. Tout ce qu'on a vu en long et en large dans les cours d'avant. Ensuite, troisième shlav, Menapetz. Donc ça, on va pas, y a rien à étudier parce que personne n'a écrit là-dessus. Parce que à part celui qui fait cette action en tant que professionnel, ouais, on va dire son travail, c'est de fabriquer des fils. Donc s'il rentre à l'usine le jour du Shabbat et qu'il va commencer à frapper sur la laine et fabriquer des fils, alors il transgressera la melacha de Ménapetz. Mais on a du mal.
Ça. Ça doit être des goyim qui font ça.
Oui, ça peut être un juif.
Ouais.
Donc on va pas l'étudier parce que c'est seulement si quelqu'un décide de faire ce travail le jour du Shabbat. On voit pas cette action dans des actions courantes de nos jours. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas trop à discuter. Donc on a aussitôt commencé, aussitôt terminé. Ça c'était la melachat Ménapetz. Maintenant, on passe à une autre melacha qui est la suite de Ménapetz. La melacha qui vient juste après. Et ça, il y a pas mal à parler. Je sais pas si on va la terminer aujourd'hui, peut-être pas, on va voir. Ça, c'est quoi? Qu'est-ce qui vient après? Qu'est-ce qu'on fait après une fois qu'on a des fils?
Avant de tresser. On les allonge, on les arrange bien.
Avant.
On les compte.
Avant ça.
Aïe.
Si quelqu'un veut faire un pull bleu, il faut de la laine bleue.
Ah, on trie les couleurs.
Il faut la colorer.
Colorer la couleur.
Voilà. C'est Melechet Tsovea en hébreu. D'accord? Tsovea, c'est teindre. Teindre la laine. Teindre la laine. Donc, il y a une belle Melacha ici à étudier, à la comprendre, à voir et pas mal de choses pratiques là-dessus. Donc c'est coloré, bien fait. Donc toujours on commence par où on commence? Par le Mishkan. Alors bien sûr il y a des psukim dans la parasha de Shemot, dans le Sefer Shemot, ouais, dans les constructions du Mishkan, où il y avait trois couleurs dans le Mishkan. Trelet, Argaman et Tolaat Shani. Bleu ciel et deux sortes de rouge, on va dire. Il y avait deux sortes de rouge et bleu ciel. C'était les couleurs de toutes les tentures du Mishkan, qui étaient faites à base de peau. Par exemple, Orot Elim Meodamim. Orot Elim Meodamim, ça veut dire les peaux qui de bouc, ils étaient rouges. Donc on les colorait en rouge. Il y avait de la laine peut-être qui était colorée en bleu. En tout cas, on colore. Si vous avez déjà vu des photos de Mishkan, parce que des psukim c'est un peu difficile à imaginer, mais il y a des livres aujourd'hui qui décrivent en photo comment le Mishkan dans le désert était construit. Et là-bas, le Mishkan de manière extérieure c'est très très coloré. Il y avait les poteaux qui étaient faits en bois, mais tout le extérieur il était coloré, toute la couverture du Mishkan. Donc on colore, très bien. Avec quoi on colore? Ouais, comment on obtient de la peinture dans le Mishkan? Où c'est qu'on va acheter de la peinture? Il n'y a pas de Leroy Merlin dans le Mishkan. Ouais, comment on obtient la peinture? Ça, vous devez savoir des autres Melachot. Des Melachot qu'on a étudiés auparavant. Personne ne se rappelle? Où c'est qu'on va trouver de la peinture dans le Mishkan? Alors c'est notre fameuse Melechet Bishoul, la longue Melacha de Bishoul qu'on a étudiée pendant longtemps, pendant plusieurs mois. Tous les détails de cuir le jour du Shabbat. Où est-ce que c'était dans le Mishkan ça? Dans la fabrication du Mishkan. On prenait des graines de couleur.
Les Samamanim.
Voilà, les fameux Samamanim. On prenait des graines de couleur, on prenait une marmite avec de l'eau bouillante, on faisait cuire ces graines de couleur pour obtenir de la peinture. Donc ça, c'est cuire. Donc cette action, quand je prends cette eau-là, avec des graines de couleur, je suis en train de cuire et de fabriquer de la peinture. D'accord? Donc ça, c'est... De là, on a étudié toute la mélacha de cuir. Maintenant, une fois qu'on a cuisiné à part, donc ça, c'est une autre étape. Ça, c'est quand on a cuit. On commence à prendre cette peinture et on va commencer à tremper toute cette laine, pour que ça soit des laines de couleur. C'est-à-dire, c'est pas qu'on fabriquait, ici on voit dans l'ordre, c'est pas qu'on fabriquait d'abord On tissait d'abord et après on trempe ce qu'on a tissé. D'abord, on colorait la laine. Et avec cette laine qui était colorée, on tissait. Ça va être les mélachot de la suite. D'accord? Donc, c'est Tsovéa. Donc, au Mishkan, on colorait toutes les peaux des bêtes et la laine pour pouvoir après tisser. Claire, ça, c'est ce qu'il y avait au Mishkan. Chirour de la mélacha. Chiour de la mélacha. C'est quoi le chiour de cette mélacha? Il y a un chiour, il y a toujours un nombre. Chiour, c'est une mesure. Une quantité pour que ça s'appelle mélacha. C'est un fil de 4 tfachim. 36 cm à peu près. Ouais. Un tefar, c'est 8 cm. 8 fois 4, 36. Donc, c'est 36 cm à peu près de fil. Parce qu'avec 36 cm, ça commence à être un fil important pour pouvoir faire un petit quelque chose. Si c'est moins que ça, c'est pas assez important. Et bien sûr, si je. Toujours, on répète ça, ouais. C'est pour que ça s'appelle une melacha, il faut qu'il y ait 4 tfachim. 36 cm de long. Mais si je fais 20 cm, 10 cm, 5 cm, c'est tout le temps un sourd. Seulement, hein, c'est pas encore assez important pour que ça s'appelle melacha. Quand on définit bien une mélacha, il faut savoir c'est quoi une mélacha, c'est quoi la définition de la D'accord? Donc ça c'est le shiur pour que ça s'appelle mélacha. Même s'il n'y a pas ce shiur, c'est quand même interdit par la Torah, chatsi shiur. Donc on répète, c'est quoi la définition de la mélacha de Tzoréa? C'est prendre tout objet. Alors, il faut bien comprendre la définition. C'est améliorer, encore une fois. Chaque étape qu'on fait, on s'améliore. On avait de la laine qu'on ne pouvait pas utiliser parce que c'est sur le mouton, donc on la tond. Ah, c'est bien, maintenant on a de la laine qui peut bouger. Ensuite, on a la laine qui est sale, on la lave, on l'a améliorée. Ensuite, on a une laine qui n'est pas colorée, maintenant on va la colorer. Donc, toute chose maintenant. Toute chose que je vais prendre et que je vais colorer cette chose-là. Et donc cet objet que je veux prendre va avoir une couleur maintenant, va être coloré. On va dire que cette chose-là a été améliorée. Et donc c'est une mélèche de Tsovéa. D'accord? Maintenant, quelle matière? Ça aussi il faut définir. Mais avant ça. Si j'ai quelque chose qui est déjà coloré. On va dire j'ai un mur. Exemple de cette mélacha, quelqu'un qui peint sa maison. Donc il prend de la peinture. C'est de chez moi ce bruit-là? Allez.
Ta chaise, je crois.
Quoi?
Écoute, c'est ta chaise.
C'est ma chaise? Non.
Arrête de bouger, tu vas voir.
Non.
C'est ça.
Non, c'est pas la chaise. Donc, on va voir de quoi ça vient. Je sais pas, ça doit être un micro ou quelque chose. Non,
je vais essayer. Je vais essayer de
Oh,
regarder.
ok.
Ça peut... Vas-y,
On
continue.
continue. J'ai un mur. J'achète de la peinture, je prends un rouleau et je peins le mur. Ouais. Ça, c'est la mélacha de Tsovéa. Non, on s'éloigne du Mishkan, ouais, on n'est plus avec la laine, on n'est plus. Mais c'est la même idée, encore une fois. La mélacha, c'est prendre quelque chose. Et de commencer à l'améliorer avec une couleur. Donc je peins tout ce qu'il y a à peindre. Tout ce qui est possible de peindre, ça rentre dans cette mélacha de tous les objets. D'accord? Maintenant c'est différent, regardez comment c'est différent lorsqu'on commence par exemple, regardez la mélacha qu'on a vue avant. Il faut bien comprendre, en défini, c'est assez fin. Si je prends la mélacha de laver, vous rappelez qu'on a dit que lorsqu'on a étudié la mélacha de laver, on a dit que si. Je prends cette mélacha et je prends on va dire, un meuble, des métaux et je commence à les laver. Est-ce que je fais l'interdit de Mélaben? Non, il n'y a pas d'interdit de Mélaben. Pourtant, pour se dire quoi, pour quelle est la raison? Parce qu'au Mishkan, c'était de la laine. Alors, pareil ici, je veux dire pareil. Au Mishkan. Qu'est-ce qu'on de la peau et de la laine, des choses qui sont des objets qui sont de peau et laine. On voit d'ici que Donc peut-être qu'un mur, ça ressemble pas à ce qu'il y avait dans Mishkan. Et je veux dire que si quelqu'un n'y peint un mur, il ne fait pas la mélacha de Melaben, de Tsovéa. Voyez ce que je veux dire? De la même manière qu'on a dit que laver un meuble, c'est pas laver. Pourquoi? Parce qu'on se réfère au Mishkan. Donc alors pourquoi quelqu'un qui peint un mur, c'est pas que c'est. Je dis que c'est permis. Parce que ça ne se réfère pas au Mishkan. Au Mishkan, il n'y avait pas de mur. Dans la construction du Mishkan, on ne faisait pas de la peinture sur les murs. Vous comprenez ce que je demande?
C'est une autre mélacha, la peinture. C'est comme écrire.
Il y a fait. Alors il faut comprendre. Est-ce que je me réfère au Mishkan ou je ne me réfère pas? Il faut décider. Pourquoi quand j'ai lavé, quand j'ai parlé de la mélacha de laver, j'ai dit que quelqu'un qui lave un métal, du fer, de l'or, du bois, il ne transgresse pas l'interdit de laver. Tandis que ici, lorsque je parle de Tsovéa, tout objet que je suis Tsovéa, ça rentre dans la mélacha de Tsovéa. Ça fait partie de?
Concerne le Mishkan.
D'accord, le mur, ça fait pas partie du Mishkan.
Non, mais le mur, non, c'est le fait de peindre, comment on va colorer les fils de coton, de laine, c'est aussi interdit.
Alors, c'est permis de peindre un mur, Shabbat?
Non.
Non. Alors, quelle est la logique ici? Il dit quoi?
Tandis que le peintre, l'OBA, ça reste.
Quand j'ai un objet, alors je vais expliquer, c'est un peu ce qui vaut, c'est un peu ça. Que chaque mélacha, quand on dit c'est ce qu'il y avait au Mishkan, on ne regarde pas l'acte que je fais au Mishkan, on regarde la définition. Lorsque j'ai un habit, laver un habit et laver un meuble, c'est extrêmement différent. Pourquoi? Parce que toute chose qui est dans un métal qui est dur, toute chose qui est dans un métal qui est dur, la saleté, elle restera extérieure. Elle n'est pas incorporée dans la chose. Il a fait, vous voyez la différence? Donc tout ce qui va ressembler à laver, c'est pas parce que c'est juste de la laine et pas autre chose. Toute chose qui va s'incorporer et par le salissement de la tâche et par l'eau qui va s'incorporer à l'intérieur, ça va rentrer dans la mélacha. Quelque chose qui est extérieur, ça ne s'appelle pas. Ce n'est pas la même chose du tout. En deux mots, si on analyse, laver un textile et laver un meuble qui est dur, c'est très très différent. Donc puisque c'est différent, ça ne ressemble pas, c'est permis. Tandis que colorer, c'est quoi l'idée? L'idée, c'est de prendre quelque chose, de lui mettre de la couleur dessus, et maintenant il a changé, il est coloré. Il n'était pas coloré, maintenant il est coloré. Peu importe le support. Que ça soit. Voilà. Voilà, c'est pas seulement, il y a le fait d'améliorer, mais même le meuble il y a amélioré. Seulement l'action que j'ai fait, c'est exactement la même chose, il n'y a aucune différence. Si je prends de la laine et je la colore, et si je prends un meuble et je le colore, si je prends un mur et je le colore, dans tous les cas de figure, je rajoute une couche de couleur. D'accord? Donc il n'y a aucune différence. L'action, elle a été atteinte dans toute la définition. Donc il n'y a aucune différence. Tout objet que je vais prendre et que je vais le colorer, ça rentre dans la définition de Tsovéa. À part une chose, ça je vais vous dire, c'est intéressant, c'est une marloquette. Quelque chose de très intéressant, on ne va pas rentrer dans la profondeur, mais je vous dis comme ça, mais il est mal. Il y a une marloquette entre Rabbi Eliezer et les Chachamim. C'est quoi? C'est un seul, c'est dans les Tanaïm ça. Est-ce que on va dire qu'il y a l'interdit de colorer sur le corps de l'homme? Quelqu'un, il se colore. Il prend de la peinture, il commence à se colorer. Il se colore la tête, il se colore les bras. Est-ce qu'il y a un interdit de se colorer, de colorer sur le corps de l'homme?
Oui, parce que la peinture rentre par les pores de la peau.
Oui, ça se pose sur ces. Non, mais est-ce que ça ressemble? Est-ce que ça ressemble? Est-ce que c'est. On va dire c'est comme peindre tous les objets. Sur ça, il y a une sur ça, il y a une discussion dans la Mishnah.
Le corps n'est pas quelque chose de dur, par exemple.
Le corps?
Le corps n'est pas quelque chose de dur.
C'est pas forcément quelque chose de dur. La laine, c'est pas dur. La laine, c'est mou.
Je fais la relation avec la laine.
Avec?
Je fais la relation avec la laine. C'est-à-dire matériaux qui sont durs,
Mmh.
le coton n'est pas dur. Je ne dirais pas que c'est de la laine, mais ça ne ça ressemble pas. Mais voilà, enfin bref.
Ça s'apprête.
Oui, voilà, il y a une question d'interprétation, quoi.
S'il y a un interdit de colorer la laine, ou s'il y a un interdit de colorer un meuble ou tout objet dur, on ne regarde pas la matière dans ce cas-là. C'est-à-dire, toute chose que je fais... Ah, il faut brancher, mais une seconde. Après, mouiller le fil. Dans 9 minutes, ça va s'éteindre. Il faut juste que je branche le...
C'est magique.
Et, encore une fois, peu importe la matière. Une seconde, je branche. Si vous ne voulez pas que ça s'éteigne dans 10 minutes... Très bien.
Oui, bonsoir. Vous m'entendez ?
Oui, oui.
Ah, ok, merci.
Top. Un objet qu'on colore, il n'y a aucune différence dans la matière de l'objet. D'accord ? Le but, c'est de mettre une couche de couleur dessus. Et que maintenant, cet objet devient coloré. C'est pas comme laver où il y a une différence d'incorporation ici. La peinture, c'est mettre une couche dessus, peu importe la matière, mou ou dur. Alors, ça, c'est la marloquette sur le corps de l'homme. D'après Rabbi Eliezer, il dit c'est pareil. Il y a le corps de l'homme, on met dessus une couche de couleur, c'est l'interdit, c'est la source de la Torah. Chachamim ne sont pas d'accord. Ils disent que le corps de l'homme, c'est quand même bizarre de se colorer. C'est hors, ça sort, c'est, on ne peut pas comparer le corps avec un objet. Vous voyez ce que je veux dire ? Gouffre. Le corps de l'homme. Le corps, c'est quelque chose de c'est pas quelque chose de normal, on va dire. Se colorer le corps, on se colore pas. C'est pas un objet, on va dire. C'est-à-dire, si l'idée, c'est comme ça. Tout objet que vient et que je le colore, ça, c'est un objet qu'on colore. On colore des objets. Un corps d'un homme, ça se colore pas. C'est bizarre, ça veut dire. La nature a été faite pour que la peau, elle reste peau. On colore pas une peau. Donc apparemment, c'est ça l'idée de Chachamim. Et on sait très bien que lorsqu'il y a un klal qui dit que lorsqu'on a un Yachid Verabim, il y a un qui discute avec plusieurs. Donc la halakha, elle est comme le Rabim. Donc la halakha, elle est comme Chachamim. Qu'il n'y a pas d'interdit de la Torah si on colore le corps. Vous comprenez ? Non, c'est durable. Quelqu'un qui se prend une peinture et qui commence à se colorer toute la figure, ça c'est durable. Seulement, c'est bizarre. C'est pas quelque chose, c'est pas un objet. Sauver A, c'est quelque chose qu'on colore un objet. Le corps de l'homme, c'est pas un objet. Il y a peut-être d'autres explications, mais pour l'instant, c'est ce qui me vient à l'esprit comme explication. Pour expliquer Chachamim. En tout cas, c'est clair. La donnée, elle est claire. C'est écrit clairement, comme ça a été posé. Qu'il n'y a pas de tzviya, comme ça on retient la halakha, c'est qu'il n'y a pas de melakha de tzviya sur le corps de l'homme. Par contre, bien sûr, il y a un interdit des chachamim. Parce que maintenant on est dans la définition, on a défini. Melakha, point de vue melakha, ouais, point de vue melakha, il n'y a pas de melakha. Mais point de vue interdit des chachamim, il y a un interdit des chachamim. Pourquoi ? La règle, toute chose qui ressemble à une melacha, c'est chachamim ou interdit. D'accord ? Donc toute chose qui ressemble à une melacha, chachamim ou interdit. Donc si il y a un interdit de la Torah, qui est melaben, c'est l'interdit de la Torah. Le corps, lorsqu'on a l'intention de colorer, il y a quand même une intention de colorer. Ça ressemble à colorer un objet. Donc il y a quand même une ressemblance. Puisque quand même il y a une ressemblance, ça reste interdit par les chachamim. Comme ça c'est la halakha. Donc on résume. Tout ce qui est objet, peu importe les objets, du moment que je fais une couche de peinture dessus, d'accord ? Du moment que je fais une couche de peinture sur l'objet, et que j'améliore l'objet, c'est une étape. C'était un objet non coloré, maintenant c'est coloré. Donc au Mishkan, il y avait les peaux. Il y avait les peaux qu'on trempait dans la peinture. La laine aussi, on la trempait dans la peinture avant de tisser. Donc tout objet C'est exactement pareil, c'est améliorer l'objet. Donc tout objet, peu importe la matière, mou, dur, peu importe, que je colore, c'est un interdit de la Torah, c'est Melechet Melaben. Le corps, c'est une exception. Il y a un avis, Nida, qui dit que c'est pareil, mais les Chachamim, qui sont Cholkim sur ce Tana, qui sont en discussion, ils disent qu'il n'y a pas de Tsovea, il n'y a pas de Melechet Tsovea sur le corps de l'homme. Donc, ce n'est pas interdit par la Torah, par contre, ça sera interdit par les Chachamim. Voilà. On va utiliser ça par la suite.
Par contre, Rav, pour se maquiller...
Très bien. C'est pour ça que c'est ce que je viens de dire. On va parler de ça par la suite. J'ai fait allusion au maquillage, sans parler. On va y arriver tout de suite, du maquillage. On va y arriver. Deuxième chose. Même si quelqu'un a déjà un mur bleu, une peinture bleue, et il décide de se faire de peindre sa maison. Shabbat, il est libre, il travaille pas, et après, il a dit, c'est bien, c'est le moment de faire la peinture. Donc, il refait une couche bleue. Est-ce que c'est interdit ou pas?
Il refait une couche bleue?
Oui. Il y a un mur qui est déjà bleu. Seulement, il décide c'est pas assez luisant, on va refaire une deuxième couche. Et quand on peint, si vous avez déjà fait de la peinture, il y a plusieurs couches. Donc, est-ce que c'est un problème? Est-ce que c'est une mélacha de... C'est déjà coloré. Je suis en train de colorer un mur qui est coloré. Hein?
C'est une mélacha. C'est une mélacha.
Très bien. C'est quand même... Bien vrai qu'au Mishkan, on prenait de la laine blanche et on l'a colorée en bleu. C'était de passer de blanc à bleu. Mais encore une fois, c'est la même chose. On ne regarde jamais l'acte proprement dit et on s'arrête là. L'idée, c'est d'améliorer. D'accord? L'idée, c'est de passer, de faire une étape. On améliore par la couleur. Donc, pourquoi on a fait une deuxième couche de peinture? Parce qu'on veut que ça soit plus coloré. Donc, même si je passe de moins coloré à plus coloré, c'est pareil. C'est exactement pareil. D'accord? Donc, on élargit. Au Mishkan, si je regarde encore une fois, l'action, il faut regarder l'action du Mishkan. Il faut garder bien la définition et après élargir. Action au Mishkan, la laine blanche, trempée, couleur devient laine colorée. Point. Donc l'idée c'est quoi? C'est d'améliorer l'apparence de la laine. Donc maintenant tous les objets que je les colore pour la première fois ou pour la deuxième, troisième, quatrième, peu importe, à chaque fois j'améliore l'apparence de cet objet. Donc ça s'appelle Sovéa. Baro, un petit cas pratique. Cirer les chaussures. D'accord, il y a un minhag de cirer les chaussures avant Shabbat. C'est une des choses qu'on fait dans la liste des préparatifs d'avant Shabbat. Il y en a qui ramènent ça en pasuk de Shir HaShirim. Marqué Mayafu Be'amayr Bane Alayr Bane Alayim Bat Nadiv. Dans Shir HaShirim. Qu'est-ce qui sont beaux tes pas avec tes chaussures? C'est une image, ouais, c'est dans Shlomo Ameler qui parle du Ram Israël. Il y en a qui apprennent d'ici, ah, qu'est-ce qui sont belles? Il faut des chaussures cirées. Il ne faut pas entrer avec les chaussures non cirées pendant Shabbat. Non, c'est pas une halakha, c'est un bon minag. Donc maintenant le problème, c'est que le cirage des chaussures, on les fait à la dernière seconde. Peut-être quelques minutes avant d'allumer les bougies. Parce qu'on sort les chaussures du tiroir. Donc faire attention de ne pas voir l'heure que Shabbat n'est pas rentré lorsque je cire mes chaussures. Ouais? Pourquoi? Quel est le problème de cirer les chaussures? C'est Tsovea. Cirer des chaussures, c'est la melacha de Tsovea. On prend de la couleur, la chaussure elle est déjà colorée, je rajoute de la couleur sur la chaussure. Maintenant, il y a quelque chose que les poskim ont écrit, et c'est intéressant aussi. C'est que même si la couleur que je fais, elle est transparente. Il y a des cirages, ouais, il doit exister des cirages transparents. Sans couleur. Alors,
c'est pareil, étant donné que l'attention, je pense qu'il y a aussi l'attention, non?
La quoi?
Ça nourrit la peau. L'attention.
La tension?
L'attention.
Ah, l'attention, elle est de quoi? Quelqu'un qui cire.
Elle est justement pour cirer, donc les chaussures.
Donc c'est quoi son intention?
Bah, c'est une mélacha, donc c'est de cirer, d'améliorer.
Très bien, donc c'est une mélacha. C'est ce que je suis en train de dire, je suis en train juste de ramener un petit cas pratique. Où c'est qu'on voit la mélacha à part de Le cas qu'on a donné tout à l'heure, il était un peu bizarre, quelqu'un qui décide de faire la peinture chez lui. Mais là, c'est un cas pratique, cirer les chaussures. Et que, ce qui est intéressant ici, c'est que ce que le poskim d'Alakha il ramène, c'est que le cirage soit d'une vraie couleur. Donc des chaussures marron, cirage noir. Mais même un cirage qui est transparent. Parce que lorsque je mets ce produit-là, ça va améliorer nettement l'apparence vraiment des chaussures, la couleur même. Même s'il y a pas, même si je rajoute pas de la couleur. Mais l'apparence, ça va être des chaussures qui vont être cirées, brillantes. Et qu'on a mis quelque chose dessus et ça les transforme. Donc c'est aussi de sauver. Ça c'est très intéressant. Parce qu'il n'y a pas vraiment de couleur ici, j'ai pas mis de la couleur. Sauver c'est coloré. C'est incolore, c'est transparent. Mais si encore je me réfère à l'idée qu'il y a derrière la melacha de Tsovea, c'est d'améliorer quelque chose. Donc j'ai amélioré sa couleur avec un cirage transparent. D'accord? Donc il y a un problème de cirer les chaussures Shabbat, c'est un interdit de la Torah, clair. Maintenant, donc il faut cirer les chaussures avant Shabbat. Maintenant, deuxième chose, dans le cirage, c'est que des fois il y a des cirages où il y a un deuxième problème. On n'a pas encore étudié. Pour quelqu'un qui est vraiment qui achète pas les petits cirages à quelques euros, petits cirages avec la mousse en haut, il y a des vrais cirages quoi. Il y a des belles chaussures pour des belles chaussures aussi. Il y a des beaux cirages. On ouvre la boîte et il y a tout un comment ça s'appelle, c'est un genre de produit comme ça. Bien fait. C'est un vrai cirage ça. Et là il y a un deuxième problème. C'est qu'on n'a pas le droit d'étaler. Ça veut dire que cette pâte, elle est dure. Et si je la mets sur la chaussure, à part le fait de colorer la chaussure, je suis en train d'étaler le produit sur la chaussure. Et ça, c'est une autre melacha qu'on n'a pas étudié encore. Ça s'appelle memareach. Memareach. Memareach, c'est étaler. On a un produit, ce produit va complètement s'étaler sur l'entente de la chaussure. Ça, c'est une deuxième melacha. Donc, se cirer, cirer les chaussures avec un cirage liquide, c'est de sauver un seulement. Cirer les chaussures avec un vrai cirage, c'est Memareach plus sauver. Deux interdits de la Torah. D'accord? Maintenant, un petit rappel. Prendre un chiffon avec des chaussures nickel, sans produit, sans eau, sans rien, et frotter fort les chaussures, est-ce que j'ai le droit? Il n'y a pas de cirage.
Non, c'est une melacha.
Une melacha, quelle melacha?
On fait l'action de frotter.
Frotter, c'est dans lequel melacha c'est frotter?
On les lave. Ah oui, les lave.
Mais melaben, on a dit frotter avec de l'eau. Là, il n'y a pas d'eau.
Mais c'est du cuir.
Il n'y a pas d'eau.
C'est sec.
C'est sec, il n'y a pas d'eau. Ah, on a étudié ça. C'était c'est tout frais, c'est tout frais de la semaine dernière. Tout frais. On a étudié comme ça, rappelez-vous. Des interdits des chachamim de laver. Rappelez. Ça veut dire laver, c'est qu'avec c'est avec de l'eau. Si je prends de l'eau et que je prends et je frotte, ça s'appelle laver ou tremper comme on a vu. Mais maintenant, je prends un chiffon et j'ai des chaussures et je commence à frotter bien fort la chaussure avec le chiffon, pas juste caresser la chaussure. Bien, bien frotter, ça va briller un peu la chaussure, même si j'ai pas de cirage. Donc ça, Chachamim, on dit que ça ressemble à Melaben.
Melaben, est-ce qu'on a dit
ça? Non, mais non, il y a une grande différence. C'est pas une Melacha. Il y a une différence, c'est juste un interdit des Chachamim. Ah, ici dans le chiot, il faut être très très, il faut toujours préciser ça, c'est très très important la différence. Pour bien comprendre les mélachotes. C'est-à-dire que c'est interdit, mais c'est pas une mélacha, il n'y a pas d'eau. Ça s'appelle pas transgresser Shabbat une mélacha, de faire un interdit de mélacha gamour pendant Shabbat. C'est un interdit des chachamim par contre, donc c'est interdit. Juste comprendre, parce que ça ressemble à laver. Ça ressemble pas à colorer. Parce qu'on colore pas. Par contre, on améliore l'apparence ici, l'état de la chaussure, et donc ça ressemble à laver, donc on ne peut pas. Donc on résume, donc on ne peut pas s'amuser avec des chaussures quoi. Pendant Shabbat, S'il y a une saleté, on peut prendre un chiffon et nettoyer, ça c'est pas problème, comme on a vu sans eau. Mais cirer avec toutes sortes de cirages, ça l'interdit de la Torah, que ça soit coloré ou pas coloré, et frotter fort des chaussures pour les rendre bien brillantes, ça l'interdit des chachamim parce que ça ressemble à la vie. Ça c'est pour le cirage. On continue. Comment on va transformer maintenant? Quand est-ce que l'interdit de Tsoveya va devenir interdit les chachamim? Ouais. Alors le Rambam est en train de nous traiter quelque chose comme ça, il nous dit comme ça. Que il y a un principe, on appelle, je sais pas si on a vu ce principe ensemble, c'est une nouvelle règle. Pour que ce soit une melacha, il faut que ce soit quelque chose qui tienne la route. Il faut que ça tienne. Melacha s'appelle en hébreu davar shehu mitkayem. Ça tient. Ça reste. Quelque chose qui ne reste pas, qui est lo mitkayem, qui ne tient pas par soi-même, ça ne peut pas être une melacha. Pour la simple raison que une melacha, c'est quelque chose qui reste, qui est important. Donc si je fais quelque chose et ça disparaît, ouais, c'est pas une melacha. Alors, on apprend ce règle-là. Où est-ce que c'est marqué clairement? Il y a des règles qui sont été dites dans une melacha, mais c'est valable pour tout. Il y a une Mishnah dans Shabbat qui nous dit que quelqu'un qui écrit, par exemple, sur la table avec de l'eau, ou bien un cas plus classique qui écrit sur une buée d'une vitre quand il y a de la pluie.
Chenouille.
De?
De chenouille, c'est ça?
Chenouille.
C'est
quoi nouille? Je sais pas ce que c'est.
Ah,
chinouille, d'accord. Non, c'est pas chinouille ici. C'est pas chinouille. Pourquoi c'est pas chinouille, maître? Parce que si on veut écrire sur une vitre, on écrit avec le doigt, on n'écrit pas avec un stylo.
Ben voilà, c'est pour ça.
Donc il n'y a pas de chinouille. C'est ça que je suis en train de vous répondre. Pourquoi ça s'appelle pas chinouille? Ça dépend où il est le support. Quand on écrit avec un crayon de papier, quand on écrit avec un stylo, c'est une feuille. Si j'écris sur la buée d'une vitre, ouais, c'est comme ça qu'on écrit. On va pas écrire avec un stylo sur une vitre. Donc je fais pas quelque chose de bizarre. C'est pas méchouné. C'est comme ça qu'on écrit sur la vitre. Seulement il y a une autre raison. Il y a une autre raison pourquoi c'est pas un interdit de la Torah d'écrire. Même un mot entier, une phrase, une lettre, on met sur une vitre. Sur une vitre avec la buée, je parle.
Ça ne reste pas.
Très bien, ça tient pas. Donc c'est la nouvelle règle qu'on apprend d'ici. Quelque chose qui ne tient pas, c'est pas un interdit de la Torah. C'est-à-dire que c'est pas une melacha. Quand la Torah nous interdit en tant que melacha d'écrire, il faut que ce soit quelque chose qui reste. C'est logique. Quelque chose qui ne reste pas, ça perd de son importance. C'est un peu la même logique que le shiur qu'on a vu au début. S'il n'y a pas assez de shiur, ça peut pas être une melacha. C'est pas assez important. Il y a plein de règles qui définissent le melacha. Par contre, bien sûr, c'est permis d'écrire sur la vitre. Non. C'est un interdit des chachamim. Pourquoi? Parce que ça ressemble. Encore une fois, le même principe. Ça ressemble. Je suis en train d'écrire, je suis en train d'émettre un message, il y a quelque chose qui se passe quand j'écris sur la buée d'une vitre. Donc ça tient pas la route, c'est pas un interdit de la Torah, mais c'est un interdit des chachamim. Donc pareil ici. Je sais pas quel cas pratique vous dire. Le Rambam, il donne un cas que j'ai pas encore compris parce qu'on n'était pas à l'époque du Rambam. Mais en tout cas, il y a des couleurs qui ne tiennent pas la route, qui disparaissent avec le temps. Donc, si maintenant, j'utilise une couleur où il y a un problème, ou dans la couleur, ou dans le support, je n'ai pas encore d'exemple en tête, et cette couleur, elle va disparaître automatiquement, peut-être un feutre, il y a des feutres qui disparaissent. Peut-être ça existe, ça, dans les stylos comme ça, à encre, où l'encre, elle disparaît. Elle reste pas. Donc ça c'est possible, ça peut rentrer dans ce sujet. C'est une couleur où il y a ou un problème dans le support ou un problème dans la couleur ou les deux ou un des deux qui va faire que la couleur ne va pas rester. Donc d'un côté je colore, d'un autre côté ça reste pas, ça interdit les chachamim. Maintenant il faut bien comprendre quelque chose pour bien expliquer cette définition. Si on revient aux chaussures de tout à l'heure. Quelqu'un, il cire ses chaussures. Bon, il va marcher tout le Shabbat. Après, il va mettre ses chaussures dans le Shabbat prochain où il va devoir les retirer une deuxième fois. Donc, est-ce qu'on va dire que cirer les chaussures, ça l'interdit des Chachamim parce que ça ne tient pas? C'est logique ce que je dis ou pas? Ça va pas rester.
Compliqué.
Pourquoi compliqué? Ça tient pas.
Oui, c'est interdit. Donc c'est...
Interdit, c'est sûr, c'est interdit. C'est comme ça.
C'est
Chachamim ou la Torah?
C'est Chachamim. Ça tient pas. Ça tient pas.
Ah, très bien. Tout le monde est d'accord avec ça ou il y en a qui discutent?
Non, moi je suis pas d'accord.
Pourquoi?
Parce que.
Ça suffit pas de dire je suis pas d'accord. D'accord.
Maintenant, je peux la raviver simplement. C'est pour ça que tu le repasses une autre couche de cirage.
Mais oui, tu
la. Mais pourquoi j'ai besoin de la cirer la semaine d'après?
Ça tient pas.
Alors la réponse.
Mais non, c'est juste pour. Pour améliorer, voilà. Donc c'est juste pour
améliorer.
Non, la colore pas, on l'améliore.
La réponse, elle est claire. La réponse, c'est parce qu'elles sont salies, mes chaussures.
Oui, mais c'est super. Voilà. Alors, mais ça n'a pas enlevé la peinture que j'ai mis dessus.
Non, j'ai mis du cirage. Le cirage, c'est une couleur. J'ai coloré mes chaussures. Après, je marche dans la poussière, ça se salit. Donc, j'ai besoin de les recirer. La raison que ça ne tient pas, c'est pas parce que la couleur elle-même, elle ne tient pas. C'est une raison extérieure.
La poussière.
C'est quelque chose. Voilà, c'est pas quelque chose qui a à voir avec le tseva lui-même. Donc c'est sûr que c'est un interdit de la Torah. C'est pas parce que ça va pas tenir à cause d'une raison qui est extérieure à ça qu'on va dire que ça tient pas. Le fait que ça tient pas, c'est un autre problème. C'est quand quelqu'un qui construit et qui détruit derrière. Il a décidé de détruire, c'est une autre raison extérieure. La maison, ce qu'il a construit, ça tient. D'accord? Donc ça, c'est pareil. Si c'est une raison qui est extérieure à ça, et qu'en lui-même ça peut tenir très longtemps, s'il laisse ses chaussures en vitrine comme ça, il peut rester comme ça des mois nickel. Donc ça tient. Le fait que ça s'est sali, c'est une autre histoire, c'est rien à voir avec la couleur. Tandis que si je prends l'exemple de l'écriture sur la fenêtre, j'ai rien fait, ça disparaît. Parce que c'est pas solide, ça c'est pas une écriture, où il est l'encre, où il est le papier. Donc de lui-même, il y a un problème dans l'écriture ici, c'est une écriture qui tient pas en elle-même. Ça c'est la différence. D'accord? Donc, un cas pratique, j'ai pas de cas pratique dans Tsovea. Il faut trouver un exemple, c'est de couleur qui tient pas ou quelque chose qui s'enlève automatiquement. Mais toutes les autres choses, même si ça tient pas à cause d'une autre raison, c'est pas une raison de dire que c'est pas Mitkayem et donc ça reste un interdit par la Torah. Très bien. Maintenant, on avance. Est-ce qu'on a le droit de se maquiller Shabbat? J'ai dit c'est un cours pour femmes. Donc c'est pour ça que c'est un cours pour femmes aujourd'hui, ce que j'ai dit au début. Est-ce qu'on peut se maquiller Shabbat?
Non.
Pourquoi?
Parce que c'est interdit.
Ouais, pourquoi c'est interdit?
Parce que c'est là, enfin, colorer la peau.
Colore.
C'est un interdit
pas.
Est-ce que ça... Non, c'est bon. Est-ce que ça tient ou ça tient pas?
Ça tient.
Ça tient.
Non.
Ça tient un maquillage.
Oui, ça tient. Oui, ça tient.
Ça tient un maquillage. Alors pourquoi on se maquille à chaque fois? Parce qu'on a décidé de l'enlever avec le démaquillage. Ouais?
Parce
qu'on a décidé de l'enlever. Ou bien pour une raison ou pour une autre, le maquillage il commence à se défaire, mais en tout cas ça tient sur la peau. C'est pas fait pour disparaître. D'accord? Est-ce que c'est un interdit par la Torah ou par les Chachamim? Tout le monde est d'accord? Pourquoi? On a parlé de ça au début du cours, rappelez-vous. Parce que
ça ne s'apprenne pas.
Pourquoi ça ne s'apprenne pas? Pourquoi ça ne s'apprenne pas? Très bien, voilà, c'est ce que j'attendais. Voilà. C'est la peau.
La peau, il reste du gélo.
Voilà. Donc ça interdit des chachamim.
C'est la peau du visage.
Très bien, le visage c'est de la peau, c'est l'homme. D'accord, c'est le corps. Donc le colorer le corps, c'est, on a dit que c'est une machloquette entre Rabbi Eliezer et chachamim. La halakha est comme chachamim, que ça interdit des chachamim. Parce que c'est le corps, c'est pas un objet. Mais ça reste interdit, donc on peut pas se maquiller. Maintenant, écoutez quelque chose d'intéressant. Ça, je sais pas comment ça rentre, à combien ça rentre dans la pratique. Ça, c'est un chidouche de Rav Ovadia Yosef et du Rav Moshe Levi et de plusieurs poskim. Alors, il y a dans les maquillages, il y a plusieurs sortes de maquillages. Si je commence par exemple avec le rouge à lèvres, t'as un problème. Deux problèmes, il y a. Le même problème que le cirage. Seulement, il y a un autre problème de la Torah dans le rouge à lèvres. Le fait de mémaréach. D'accord? Le fait d'être mémaréach. C'est quoi mémaréach? Ouais. C'est dur le rouge à lèvres, c'est un tube. D'accord? Donc ce tube là, c'est quelque chose qui va, il va essayer de. Qui va se décomposer. Qui va être mémaréach, étalé. On n'a pas encore étudié ça ensemble, mais c'est une mélacha de Shabbat. Et il y a aussi colorer le corps de l'homme qui est interdit par les chachamim. Maintenant, il y a des poudres. Alors ça, je ne m'y connais pas du tout en maquillage, vous allez me dire. Il y a des poudres qui sont entièrement que poudre. Et il y a des poudres qui sont mélangées avec une matière qui colle, avec une crème. Ou bien, troisième manière, c'est qu'il y a de mettre une crème et sur cette crème, mettre la poudre. Alors en quoi que ça peut me faire comme ça ou comme ça ou comme ça? C'est qu'il y a un chidouche, comme je l'ai dit, qu'il y a plusieurs poskim qui sont poskim l'alakha, que si on utilise que de la poudre, alors on a le droit de se maquiller. C'est quoi l'idée? Quelle est la logique? Toujours je suis en train de vous casser la tête avec interdit des chachamim et interdit de la Torah. Des fois on utilise ça dans des cas pratiques. Et là c'est un des cas.
Parce que la reste pas.
Très bien.
La poudre ne reste pas.
Très bien. Et alors? Mais on a dit que si ça reste pas, c'est quand même interdit. Alors là, il y a deux idées. Il y a deux choses qu'on a vues dans ce chiot. On a dit que si c'est quelque chose qui ne tient pas, on descend d'un niveau. On passe d'un interdit de la Torah à un interdit des Chachamim parce que ça ne tient pas. Très bien. Et là, ça ne tient pas de soi-même, on a expliqué, pas à cause d'une raison extérieure. La poudre, c'est pas parce que je l'ai enlevée qu'elle s'en va. Elle s'en va d'elle-même, ça s'évapore, ça s'en va, ça s'envole. Deuxième chose, c'est sur le corps de l'homme. Et le corps de l'homme, même si c'est quelque chose qui tient, c'est qu'un interdit des chachamim. Donc si on fait, mais on peut pas s'amuser avec ça, c'est que les poskim qui peuvent dire ça, mais je vous dis une règle. Si on fait un interdit des chachamim plus un autre interdit des chachamim,
un interdit à toi.
Non, ça devient permis. Comment ça devient l'intérêt de la Torah? Il y a deux, en fait, c'est comme ça. Il y a deux raisons de permettre ici. On a descendu de deux niveaux, en fait. Premier niveau, c'est le corps de l'homme, c'est pas un objet. Mais ça suffit pas, ça. Deuxième niveau, ça reste pas. Donc, c'est quand c'est en même temps sur le corps de l'homme et en même temps ça reste pas, les deux choses ensemble, ça fait qu'on descend entièrement et ça devient permis. Ça, c'est, on ne peut pas s'amuser à faire ça seul, c'est que des grands poskim qui peuvent le dire, ça a été dans le Sifre d'Alakha, comme ça le Rav Ovadia est posé, comme ça le Rav Moshe Levi est posé. Encore une fois, mais je répète bien, ce cas-là, c'est bien, c'est théorique, c'est beau, mais c'est, je pense que ce n'est pas tellement pratique. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on fait des poudres spécialisées, on rajoute avec cette poudre un produit qui fait que ça tient. Qu'est-ce que vous dites de ça? Je me connais en maquillage, moi je ne me connais pas en maquillage. Je sais pas le nom, mais les poudres, lorsque je parle d'une poudre, est-ce que ça existe aujourd'hui des poudres qui sont que poudres?
Non. Non, il y a des fois de terre aussi. Non, il y a des fois de terre poudrées.
Ça veut dire qu'il y a un mélange, c'est quoi un fond de terre?
Mais c'est étalé. Je sais pas. Il y a des fois de terre.
Oui, mais.
Matière qui est grasse, et donc elle tient.
Voilà, donc il y a quelque chose de gras, il y a des substances qui font que ça tienne. Alors si quelqu'un, je sais qu'il y a, je sais que d'après ce éther-là, je sais qu'en Israël, ils ont vendu du maquillage comme ça pour Shabbat, qui est 100% poudre, sans produit à l'intérieur, d'après cette permission. Ben non, ça tient, mais ça tient pas la route.
Et c'est possible de, donc, d'en mettre.
D'après ce que je viens de dire, oui. Si c'est quelque chose qui ne tient pas et que c'est sur le corps de l'homme, c'est deux raisons qui vont faire. Pardon?
C'est permis.
Oui.
Exactement ce que vous avez dit tout à l'heure, c'est-à-dire qu'un interdit des raramim et un autre interdit des raramim, c'est permis, mais en même temps, c'est quelque chose qui ne tient pas. Donc
c'est ça. Ça veut dire que s'il y a une raison à interdire par les raramim, dans un cas précis, c'est-à-dire quelque chose, un objet, et je mets une couleur qui ne tient pas. Donc, d'un côté, c'est un objet, mais d'un autre côté, ça ne tient pas, donc c'est interdit par les Chachamim. Le corps, si je mets une peinture qui va tenir, alors d'un côté, c'est que ça tient, mais d'un autre côté, c'est le corps de l'homme, donc c'est interdit par les Chachamim. C'est distinct. Mais si j'ai les deux raisons en un coup, comprenez l'idée? Et premièrement, c'est le corps de l'homme, et aussi, ça ne tient pas. Donc on s'éloigne de la melacha. Parce que, comprenez ou pas? Si le corps, ça ne rentre pas dans la melacha, et si le fait que ça ne tient pas, ça ne rentre pas dans la melacha, séparément chacun, ça reste interdit, ça reste interdit. Mais si j'ai les deux cas réunis en même temps, ça devient permis.
D'accord.
Maintenant, je vous ai dit, on ne s'amuse pas avec ça. C'est-à-dire, je ne peux pas commencer à faire 1 plus 1 égale 2 dans d'autres halakha et de dire, ah, des rabbins, comment ça? On n'est pas des poskei halakha. Ouais? C'est que ce que les chachamim, les poskets, les grands rabbanim qui sont poskets dans la chôte nous disent comme règle, que là, on dit. Moi, je vous répète ce que j'ai vu. Donc ça, c'est comme ça que le Rav Ovadia Yosef est posé, comme ça le Rav Moshe Lévi est posé. Mais je répète, ce cas, il ne faut pas le prendre dans la pratique. Il faut vraiment être sûr 100% que la poudre que je mets, elle est 100% poudre, sans aucun produit qui font que ça tienne. Sinon, c'est comme un vrai maquillage. D'accord? Donc, qui mate la totalité de tous les maquillages, en fait, ils sont interdits, malgré que ça soit sur le corps de l'homme, parce que ça tient. Claire? Tout le monde a bien compris?
Oui.
Très bien. Qu'est-ce qu'il y a encore à voir? On a le temps encore de voir un petit peu. Ouais. Encore un sujet qui est intéressant dans la Melacha de Tsover. Les aliments. Est-ce qu'il y a un interdit de colorer des aliments? Je vais me faire un thé pendant Shabbat.
Tout dépend comment on le fait.
C'est les quoi?
On colore l'eau ou pas l'eau?
Si je fais un thé, je suis obligé de colorer l'eau.
Mais tout dépend comment on le fait.
Ça veut dire que...
Ouais. On verse l'eau dans un kelly.
Ouais.
Alors,
quand je rajoute le thé, je colore l'eau.
Oui, mais enfin là, c'est possible.
Pourquoi? Alors, on n'a pas le droit de colorer.
Non, c'est-à-dire que déjà l'eau est versée. Elle est déjà versée dans un kelly. Donc après, je ne colore pas donc, de suite. C'est que le thé se déteint dans l'eau.
Voilà, le thé, encore une fois. Je répète, je prends un verre d'eau bouillante du Mecham de Shabbat. On a étudié ensemble comment on fait un thé Shabbat. Vous vous rappelez?
Oui.
On a étudié ensemble. Il y a beaucoup de détails. On a bien étudié ça. On a fait tout un cours sur le thé et le café, si vous vous rappelez.
Oui, c'est vrai.
Bon, il n'y a pas de problème de bichoul. C'est-à-dire, on prend un verre d'eau sec. Je prends un verre sec. Je le remplis d'eau bouillante. Et après, je mets le thé. Bon, très bien, il n'y a pas de problème de bichoul. C'est cliché ni, c'est pas mes vachettes, tout ce qu'on a étudié. Le problème maintenant, c'est que quand je mets le thé dans l'eau, ça colore l'eau. Donc on est maintenant dans la. On n'est plus dans mes lechettes bichoul maintenant, on est dans mes lechettes sauver. Donc est-ce que j'ai le droit de colorer? J'ai une soupe. Et je décide de mettre dedans le. curcuma. Vous connaissez cette épice? Comme ça qu'on dit en français, ouais. Curcum. Ça, c'est bien, bien jaune. Donc maintenant, j'ai ma soupe. Au lieu d'elle soit bien blanche, elle est maintenant bien, bien jaune. J'ai le droit ou pas? J'ai coloré ma soupe. J'ai coloré mon thé. On a le droit ou pas? On n'a pas le droit. Alors ça, c'est une nouvelle règle. La halakha, elle est, c'est qu'on a le droit. Il y a une règle. Il y a une règle. Il y a une règle qui dit « En tzvia be'ochalim ». En tzvia be'ochalim. En hébreu. C'est-à-dire, il n'y a pas d'interdit de colorer dans les aliments. Il n'y a pas d'interdit de colorer dans les aliments. Pourquoi? Il faut comprendre ça. Si encore je me réfère à la melacha, donc j'ai un aliment qui n'est pas coloré, maintenant je l'ai coloré. Si je reste l'aliment dans le frigidaire pendant plusieurs jours, il va rester coloré, donc ça tient. C'est un objet, c'est pas comme le corps de l'homme. C'est-à-dire, tout ce qu'on a étudié qui descend de niveau la melacha de Tzovea, ça ne s'applique pas dans les aliments. Alors là, il faut dire une autre logique. Et là, c'est pas que c'est interdit des chachamim, c'est permis. On est bien d'accord, on n'a jamais vu quelqu'un qui a interdit de faire un thé parce qu'on colore le thé. Ou bien quelqu'un veut se faire un jus, il met un genre de tarquise comme ça, un genre de pétel, et après il met de l'eau, ça devient de l'eau rouge. Personne n'a interdit ça. Donc là, la chahane, c'est que c'est permis. Quelle est la logique? La logique, elle est comme ça. Colorer un aliment, ça rentre dans manger. Ça veut dire, colorer les objets, l'objet il reste comme ça. Tout ce que je colore, ça reste. J'ai des chaussures cirées. Très bien, mes chaussures maintenant, elles sont bien colorées. J'ai un mur qui est peint, et ainsi de suite. Je suis content que j'ai amélioré l'apparence de cet objet. Tandis qu'un aliment, pourquoi je le colore? La raison qu'on colore, c'est pour boire ou pour manger derrière. C'est-à-dire que si je me fais un thé, c'est pas pour quelqu'un qui se fait un thé, qui prend de l'eau limpide et qui met là-bas du thé dans de l'eau, il colore son thé pour boire après.
Il n'y a pas d'intention, c'est ça?
Mon intention, elle est de colorer. Mais la raison que quelqu'un colore des aliments, c'est pour par la suite après manger. Ça veut dire que c'est une des choses qui rentre dans tout ce qu'on fait pour manger, la préparation à manger. Imaginez-vous que tout ce qu'on mange, c'est sans couleur. On n'a plus envie de manger. Ouais, on veut manger une salade, on voit des concombres qui sont verts, on voit une tomate qui est rouge. Ça donne envie de manger les couleurs. Donc la couleur dans les aliments, c'est un besoin pour pouvoir manger. Donc si je colore un aliment, bah, colorer, c'est pas que je prends un objet, je commence à prendre la peinture et je colore mon légume. On parle pas de ça, ouais. Si quelqu'un il veut prendre, je sais pas moi, il a une idée de prendre une pomme, la colorer en bleu et de la mettre sur sa bibliothèque. Là, il rentre dans le problème de colorer. Je parle de colorer une coloration qui est dans toutes les colorations d'aliments. Voilà. Tout le but, c'est de colorer. Je vais donner un exemple, vous allez voir, vous allez comprendre. Quelqu'un qui décide de prendre un bel aquarium comme ça, un aquarium à poissons. Et il va dire, avant de mettre les poissons, bon, il n'y a peut-être pas de poissons, c'est un peu bizarre. Bon, il prend un genre de bocal, et il prend de l'eau, il commence à mettre dedans plein de colorants. Ça fait très beau comme ça, plusieurs couleurs. Et il met ça sur sa bibliothèque. Il a le droit de faire ça ou pas?
Non.
Pourtant, c'est de l'eau. Très bien. Donc je décide maintenant de colorer l'eau pour décorer. Donc là, même si c'est de l'eau, mais la destination, c'est pas pour manger, c'est fait pour faire beau. Donc c'est exactement comme colorer quelque chose d'autre. Mais tous les colorants que j'utilise pour manger, étant donné que la couleur et le but, c'est fait pour manger, Bassof, pour m'amener à manger même, comme on vient de dire. Parce que le fait que quelque chose est coloré, c'est plus intéressant à boire. Si je prends de l'eau chaude avec du sucre, c'est moins intéressant que de boire un verre de thé. Et pour le goût et par l'apparence. Deux choses. Peu importe. Ou goût ou apparence. Le fait de voir, ça rassasie. Manger avec les yeux. Dans la parachat à Shavua, il y a un des mêmes farchim qui dit que les, les, Les sauterelles en Égypte, elles étaient aveugles. Comme ça, il est marqué dans le pasouk, il est marqué Vechissa et en haaretz, velo yuchal lirot et haaretz. C'est-à-dire que l'arbé va recouvrir toute la terre. Et, alors Rachid explique qu'on ne va pas pouvoir voir la terre, parce que c'est tellement rempli de sauterelles qu'on ne voit plus la terre. Mais le Kliyakar, il explique autrement. Le Kliyakar, il dit que, parce que c'est un peu difficile d'expliquer comme ça, on dit, là, le sauterelle, elles vont recouvrir la terre, et que c'est qui ne voit pas? C'est l'homme. Le Kliyakar, il dit, ça se rapporte sur la sauterelle. C'est-à-dire que la sauterelle va venir, va recouvrir la terre d'Égypte, et la sauterelle ne va pas voir. En d'autres termes, elle sera aveugle. Pourquoi c'est aveugle? Parce que quelqu'un qui est aveugle, il se rassasie moins que quelqu'un qui voit l'aliment. Et donc il va plus manger, et donc la makale sera plus forte. T'as compris?
Oui.
Donc la sauterelle, d'après le Kliyakar, elle était aveugle. Parce que celui qui est aveugle, Kanéré, il mange, il se rassasie moins parce qu'il ne voit pas. Donc, pour revenir à notre sujet, le fait de voir quelque chose, un aliment qui est coloré, ça amène à manger. Et donc le but final, c'est de manger. Donc ça n'a rien à voir avec la mélacha de colorer. Et donc, c'est permis. D'accord? Maintenant, bon, peut-être on va laisser ça pour la semaine prochaine. Il y a encore quelques nekouda à parler. Il y a des fois... Non, on va parler ça. On va laisser ça pour la semaine prochaine. Je ne sais pas si on a le temps maintenant. Donc on va... Il y a encore un autre nekouda à voir. Il y a encore quelque chose à voir. Quelques halakhot à voir pour Tzoréa. Avant de continuer la suite des halakhot de Shabbat. Il y a des questions, tout va bien? Tout est compris? C'est bon?
Merci, Rav.
Yofi. Merci. Shavua Tov.